bienvenue à Zurich. Nous sommes le 19 février 1963 au Café Africana, un repère de choix pour les musiciens de jazz, professionnels comme amateurs. Ce soir, sur scène, c'est Dollar Brand et son trio. Comme les autres donc, puisqu'il est l'artiste en résidence. Sauf que les portes du club sont fermées, et dans le public, il n'y a qu'un seul homme. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du grand maître Duke Ellington. S'il est là, c'est parce que Satima Bea Benjamin, la future épouse de Dollar Brand, s'est introduite ce même soir dans le vestiaire d'Ellington, à l'entracte de son concert au Congress House, afin de le supplier, lui qu'elle idolâtre, de passer à l'Africana après son concert. Paris gagnant. Ellington est séduit, et le trio est invité à son studio à Paris pour une session d'enregistrement à peine 4 jours plus tard. Benjamin, par ailleurs une excellente chanteuse, est aussi conviée. Cette session produira, dans un premier temps, un unique album. Duke Ellington presents the Dollar Brand Trio. Celui-ci forgera la réputation du pianiste comme un des nouveaux talents majeurs de la scène internationale, dans la lignée d'Ellington et de Monk, et précipitera son départ vers les États-Unis. Lui qui était installé en Suisse depuis moins d'un an après avoir choisi l'exil d'Afrique du Sud. Sa nouvelle vie en Amérique aura un profond impact sur son style et sa conscience musicale. Lors de ses passages successifs en Afrique du Sud à partir de 1968, l'homme qui se rebaptise Abdullah Ibrahim cherchera à développer un authentique mode d'expression sud-africain dans le jazz. Mannenberg, son morceau le plus célèbre, enregistré en 1974 et très vite devenu une icône de la musique sud-africaine, est un parfait exemple de ce style qu'on appelle le Cape Jazz et dont il est une des figures de proue. Plus tard, dans les années 80, Mannenberg connaîtra une nouvelle vie grâce à la valeur symbolique qui lui est accordée dans le contexte de la lutte contre l'apartheid. C'est la double vie de ce morceau, emblème du Cape Jazz devenu hymne à la liberté, et l'histoire de son créateur, qui vous est retracée dans cette série en 2 épisodes. Je m'appelle Luxi Bright, et vous écoutez le programme Jazz Story sur Art District Radio. Mannenberg, c'est le résultat d'un projet de synthèse musicale entrepris par Abdullah Ibrahim à partir de la fin des années 60. Lors de son exil aux États-Unis, il commence à développer une identité musicale issue d'une forme de nationalisme culturel. Une synthèse donc d'idiomes musicaux américains, comme le jazz et le jazz-rock, avec des formes d'expression typiquement sud-africaines. Le marabi notamment, ce style pianistique lié au blues et au ragtime, axé autour de courtes séquences harmoniques répétées en boucle. Simple, mais dansante. 1, 4, 5, 1, principalement. Puis des formes dérivées de cela, comme le kuela ou le mbakanga. Sans oublier, bien sûr, ces rythmes africains comme le gouma, qui s'apparentent au tressillo cubain. Mais une autre partie de l'héritage culturel d'Ibrahim, qu'il a su élever dans sa musique, lui qui appartient au groupe ethnique hétérogène dit des Colored du Cap, ce sont les chants folkloriques et les chants de minstrel du carnaval de Cape Town, ainsi que les chœurs de la communauté musulmane des Malais du Cap. Et pourtant, cette fusion-là des genres, Abdullah Ibrahim ne l'a pas toujours revendiquée. Il naît Adolf Johannes Brand en 1934 au Cap. et acquiert le surnom Dollar, car jeune, il achetait régulièrement des vinyles de jazz aux soldats américains sur les quais pendant la Seconde Guerre mondiale. Son éducation musicale se fait en jouant pour divers groupes au sein desquels il apprend à maîtriser le marabi et le mbakanga, mais aussi le bebop. Car à cette époque-là, dans les cercles artistiques du Cap, c'est le jazz moderne, celui de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie et Thelonious Monk qui fait fureur. À tel point que beaucoup de musiciens choisissent de les imiter méticuleusement, et pas uniquement dans leur façon de jouer. Le saxophoniste Kippy Moketsi, par exemple, aspirait à non seulement jouer comme Charlie Parker, mais aussi s'habiller, parler et agir comme lui, jusque dans sa tendance vers l'autodestruction. C'est une communauté mixte, bohème, cosmopolite, inspirée par la génération des beatniks et se définissant en opposition aux normes sociétales et les étiquettes raciales de la société sud-africaine à laquelle appartient le jeune Dollar Brand. Et leur musique, c'est le bop. En 1959, Ibrahim forme l'ensemble The Jazz Epistles, avec parmi d'autres Moketsi et le trompettiste Hugh Masekela. La même année, ils sortent leur unique album, Jazz Epistles Verse 1, qui, stylistiquement parlant, aurait pu tout aussi bien être enregistré par un groupe de musiciens new-yorkais. C'est du pur bop. Le 21 mars 1960, la police sud-africaine tire sur une foule manifestant contre les lois sur les passeports intérieurs, qui établissent depuis plusieurs années un système interne d'identification conçu pour contrôler la main-d'œuvre et l'urbanisation en imposant une stricte ségrégation raciale. Il y a 69 morts. Le massacre de Sharpeville marque un tournant significatif dans l'histoire du régime d'apartheid. L'État entame une campagne de répression brutale. L'état d'urgence est établi, des milliers de dissidents politiques sont arrêtés et le Congrès national africain est déclaré comme illégal. De nouvelles ordonnances interdisent aux musiciens de races différentes de jouer ensemble et aux musiciens noirs de jouer devant des publics blancs. La communauté musicale est étouffée et cela entraîne un exode massif d'artistes. Ibrahim choisit de s'exiler en 1962. Parti dans un premier temps en Suisse où il rencontre Ellington, il rejoint New York en 1965, tout juste marié. Il intègre très vite les cercles avant-garde de la scène new-yorkaise et fréquente tous les grands du bop, son idole Monk, Max Roach, Elvin Jones et du free, John Coltrane, Ornette Coleman, Pharoah Sanders. Il rencontre un certain succès, enregistre plusieurs albums et sera même le remplaçant d'Ellington en tournée à 5 reprises en 1966, lorsque ce dernier travaille sur la bande originale pour le film Anatomy of a Murder. Pourtant, son revenu demeure instable, comme c'était le cas pour la plupart des musiciens de jazz d'ailleurs. Thank you. C'est au cours de son exil new-yorkais qu'Ibrahim commence à revisiter ses racines sud-africaines et les idiomes propres aux langages musicaux de son pays natal. Une certaine nostalgie, peut-être ? Sa proximité avec une communauté fortement influencée par les idéologies de panafricanisme et de nationalisme noir a probablement contribué aussi à un éveil de conscience chez lui. Quel était son blues ? Quels étaient ses spirituals ? Son concert au Carnegie Hall de 1967 demeure pour lui un événement profondément marquant, qu'il aura ressenti comme une sorte d'improvisation à travers son passé au Cap. Il en dira « D'un coup, tout m'est revenu. Je jouais à travers District 6, la rue Hanover, le carnaval de Kuhn, les chansons d'enfants, la montagne de la table, à travers les collines de Podolande, ma mère, mon père, mes sœurs, mes frères, tout. » La célébration d'une histoire personnelle donc, mais aussi d'une histoire commune, parfois tragique, celle des communautés noires et colored du Cap. Le District 6 était une fois le cœur spirituel de sa communauté, un symbole de résistance et de créativité face à l'oppression raciale. En 1967, en revanche, le district était devenu un symbole du grotesque effort d'ingénierie sociale du régime d'apartheid. L'État démolissait ses bâtiments et déplaçait sa population vers de nouveaux quartiers comme, vous l'aurez peut-être deviné, Manenberg. Ibrahim retourne au Cap en 1968, convaincu de la nécessité de donner au jazz d'Afrique du Sud une forme d'expression authentique et nouvelle. C'est à ce moment-là qu'il se convertit à l'islam et change de nom. Il écrit plusieurs articles pour des journaux locaux dans lesquels il critique l'état actuel de la musique sud-africaine et incite d'autres artistes à absorber leurs racines musicales, oubliant peut-être au passage le travail de certains avant lui comme Gideon Nxumalo, Zax Nkosi ou encore Philippe Tabané. Ses idées, ainsi que sa musique, ne sont pas bien reçues, et il décide, dépité, de retourner aux États-Unis. Un an et demi à peine après avoir écrit « Il n'y a rien là-bas, tout est ici », le voilà déjà reparti. Heureusement, ce n'était que pour mieux revenir. Pour en savoir plus, rejoignez-moi au prochain épisode.